IP005, la brosse à dents verte, avec un manche en bois de pin, 100% européen, avec une brosse en poil de sanglier.
Alors, ça risque pas de rebuter les gens, le poil de cochon?
Ah non, pas du tout.
Non,
pas du tout.
Alors, pour les conservateurs, on a aussi l'IP007. Le manche est en plastique, mais la tête est détachable.
Oh, okay.
CO2, mon amour.
Et voilà la merveille. L'IP009, tête détachable. Manche en noisetier.
Denis chez Sou.
Donc plus souple. Tu veux essayer?
Non.
Si, vas-y, elle est neuve.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2, mon amour, en direct de La Rochelle, parce qu'on n'attend pas le changement, mais que nous sommes le changement, avec aujourd'hui Hervé Dubreuil, Andreas Jaffray, Gilles Manet, Julien Bourdet, Pascal Bresse, merci à Nicolas Boucard aussi à la technique, et c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Et oui, ils sont là, ici à la coursive, et nous, on va dire que prenant nos distances avec l'agitation relativement hystérique de la capitale, CO2 mon amour s'en vient au bord de l'Atlantique retrouver un peu de calme et enfiler ses charentaises, ça commence donc très très mal, encore que cette quiétude n'est absolument pas garantie. Pour preuve, le récent tremblement de terre qui a secoué les environs le 28 avril dernier, et oui, notre vieille terre soubresaute encore comme un chien cherchant à se débarrasser de ses puces. La flèche voisine de la tour de la Lanterne du haut de ses 60 mètres a même perdu quelques pierres. Petite parenthèse quand même, vous avez des gargouilles super parce qu'elles furent refaites l'an passé à l'effigie de Cabu et de Volinsky quand même. Ça, bravo. Ouais. Alors, ne vous en faites pas, le temps de notre émission, j'ai demandé au père Fouras de négocier avec la faille du massif armoricain qui est aussi vieille que lui. Il m'a dit, pas de problème, le plancher terrestre donc sera stable. Quoi qu'il en soit, CO2 prend ponctuellement ses quartiers à la coursive de La Rochelle, sous la protection de la superbe coquille Saint-Jacques. Alors, bon, que dire de plus sur cette ville, donc célèbre pour ses filles, ses sergents? Ah si, déjà, au niveau folie, elle y va franco.
Bonjour. Bravo Denis.
Ça, c'est fait. Voilà. Et bien sûr, salut à Jean-Louis Foulquier. Et puis, La Rochelle, depuis le XIIe siècle, a forgé son identité autour de son port. C'est une vérité de la palisse, bien sûr. Même, alors ça, c'est très local, hein, c'est, oui. Ça, dans les Vosges, ça va peut-être vous faire moins d'effet. Bon, enfin, ici, ça marche bien. Même si de nos jours, le port de plaisance et le port de commerce ont pris l'ascendant sur le port négrier, ce qui est une bonne nouvelle, et sur le port de pêche, aux bateaux sans cesse moins nombreux, et pourtant, il est peut-être pas si loin le temps de l'armée du chalut. Voilà. Attention, il y en a peut-être encore une ou deux autres, je ne sais pas. Et pourquoi ne pas ajouter que la baie de La Rochelle, classée Natura 2000, voit s'ébattre dans ses eaux alors nombre de mammifères marins, du dauphin au phoque, au marsouin, en passant par la baigneuse en string. Et puis alors aussi, vous avez les tortues. Et là, votre bel aquarium a hébergé 13 tortues dans le centre de soins, suite donc aux intempéries hivernales. Et elles seront relâchées avec un pull-over dans l'océan, donc cet été. Alors, la Charente si jolie, oui, mais quand même, si on regarde le fleuve, premier fleuve de France pollué par les pesticides, merci qui ?
Le cognac, Denis ?
C'est ça, le cognac en amont.
Eh ben voilà.
Eh oui, youpi, et la Sèvre Niortaise aussi, qui est bien placée. Mais surtout, cette belle Charentaise qui joue les coquettes derrière ses arcades, donc La Rochelle est une ville pionnière pour l'écologie urbaine. Dès 1970, merci Crépeau, c'est ici qu'on inaugure toutes les premières rues piétonnes. Les premiers vélos en libre-service se suivront en 1974. En 1997, La Rochelle est à l'origine de la première journée sans voiture. Depuis 2008, vous avez deux bus de mer qui sont propulsés au solaire. Depuis 7 ans, vous avez le formidable festival Terre et Lettres qui distille à partir de l'écrit une belle réflexion sur l'écologie. Petit clin d'œil à Dominique Agnel et Marie Spriboulet, jeunes anciennes de France Inter. Et en juillet 2015, eh ben, votre maire Jean-François Fontaine a viré les voitures du vieux port, allez hop du balai, ce qui inévitablement a fait gueuler quelques commerçants, c'est normal. Surtout, ne changeons pas nos habitudes de mollusque accroché à son volant. Bon, Et alors aussi, du 28 mai au 5 juin prochain, vous avez la semaine de la réparation en Charente-Maritime pour réparer au lieu de balancer vos objets en faisant bosser les artisans locaux sous la houlette du syndicat mixte Cyclades. Et alors, bref, donc on va se dire que La Rochelle prendrait des allures un peu de cité idéale à tel point que CO2 se demande s'il ne va pas s'installer durablement ici. Après tout, on est quand même pas mal assis, hein. Certes, ce n'est pas un fauteuil Louis XIII, mais il est néanmoins très confortable, ce siège de La Rochelle. Ami Rochelet, bonjour à tous. Et quand même, l'actualité récente m'oblige à préciser que les hommes prénommés Denis, s'intéressant à l'environnement, ne sont pas tous présumés harceleurs. Bien. Si vous avez un bon réanimateur, d'ailleurs, pour empêcher la mort clinique des vers, il est en tout cas le bienvenu. Alors, on va commencer avec Frédéric Danhé, qui intervient régulièrement dans cette émission, qui est ravi aussi d'être à La Rochelle. Bonjour, cher Frédéric.
Bonjour, mon cher Denis.
On va y aller peut-être un peu rapidement sur l'actualité, on va dire, nationale, parce que, donc, on a eu ce projet de loi de reconquête de la biodiversité, c'est vous dire dans quel point elle est, qui était revenu en seconde lecture au Sénat. Qu'est-ce que l'on peut retirer de cela?
Alors, seconde lecture avant une commission mixte paritaire qui définitira, qui figera les choses dans le marbre le 25 mai. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a une avancée certaine sur le préjudice écologique. Il y avait un petit flou de jugé. Là, il est précisé, il est renforcé. C'est très bien, c'est un bon point. Deuxième bon point, les chemins ruraux et les allées arborées, les routes bordées d'arbres, comme il y en a une, hein, quand on sort de New York pour aller ici, que oui, j'ai eu le loisir de voir depuis mon autocar. Bien, ces allées arborées sont considérées aujourd'hui comme un patrimoine culturel. C'est un deuxième bon point, c'est une avancée. On ne pourra plus prétexter de quelques accidents de mobylette pour flinguer tous les platanes.
Mais les néonicotinoïdes,
alors qui n'ont rien à voir avec la nicotine qu'on fume, non, que certains fument encore dans les cigarettes, les néonicotinoïdes, il y a un sérieux recul. Initialement, ils devaient être strictement interdits à partir de 2020. Eh bien non, cette interdiction, cette date butoir a été supprimée.
Ah, vous nous rassurez quand même.
Oui. Je vais quand même un petit peu vous rassurer. Il y a quand même eu des avancées au plus tard.
Mais ça veut quand même dire que ça a fonctionné, le lobby au niveau des nicotinoïdes. Ça a bien marché.
Évidemment, le lobby de la chimie a fonctionné. On a retiré cette date butoir. Néanmoins, au plus tard, le 31 décembre de cette année, l'ANSES, l'Agence nationale, je vous laisse dire la fin parce que je ne m'y retrouve jamais, de la sécurité
nationale de sécurité sanitaire pour l'alimentation, l'environnement et le travail, je crois.
Ça doit être ça. Donc l'ANSES devra avoir établi les bénéfices, le rapport bénéfice-risque des usages des néonicotinoïdes à la fin de cette année, et au plus tard, le 1er juillet 2018, la même ANSES interdira à partir de ce bilan les produits pour lesquels il n'y aura pas de remplacement. Ensuite, ce sera au cas par cas. C'est un recul, mais bon, on se contente
de
ce qu'on a.
Est-ce que la durée de travail des abeilles de 39 heures va être payée 35 ou
Faut voir avec.
On ne sait pas encore. Bon, si on passe maintenant effectivement au côté plus local.
Il y a un petit quelque chose en plus. Ici, les semences deviennent échangeables, sans prix, échangeables entre les paysans. Vous savez, les semences paysannes. Ouais,
on pouvait aller un peu à l'entôle. Ouais. C'est important, ça. C'est important. Localement, nous avons la mer qui monte, qui se délate. Ça, c'est normal, sous l'effet donc du réchauffement. Qu'est-ce qu'on peut dire, question submersion?
Eh bien, la mer va rappeler à nos amis Rochelais qui sont en face de nous que le marais Poitevin est sous le niveau de la mer. Vous savez, le marais Poitevin était gagné sur la mer en 1000 ans de dur labeur.
C'était polder, c'est ça. Non,
voilà, c'est un polder, comme il y a chez moi d'un schnorr, hein, en dessous de Dunkerque, entre Dunkerque et Saint-Omer. Donc,
la ramenez pas. Oui.
Non, je la ramène pas. Le risque, c'est tout simplement que la mer gentiment regagne la surface qu'elle occupait avant, à l'époque où il y avait un golfe à la place du marais Poitevin. Alors, globalement, la mer ici monte assez peu parce que les côtes sont stables. C'est 2 mm par an. Ça fait donc entre 20 et 30 centimètres par siècle. Néanmoins, on constate, notamment les équipes d'Éric Chemillon, excellent professeur et chercheur à l'université de La Rochelle, que la hauteur des vagues augmente, ce qui augmente leur énergie dès lors qu'elles déferlent sur les sables, sur la plage, ce qui pourrait augmenter la capacité érosive des plages par les vagues.
Bien, on va parler aussi tout à l'heure du sable, parce que je vous propose, j'ai rencontré donc hier Isabelle Autissier, qui ne pouvait pas être avec nous, c'était donc bien sûr sur le Vieux-Port, vous la connaissez, la présidente du WWF, elle est là depuis 1980, et ça a commencé simplement par « Bonjour Isabelle !»«
Bonjour Denis, bienvenue à La Rochelle !»
Regardez, c'est formidable, hein.
Ah, on est pas mal.
Oh, on est dehors, la coursive d'ailleurs où nous en l'émission est juste derrière, voilà. Donc c'est formidable, et puis on est chez vous donc sur le Vieux-Port, évidemment, la tour Saint-Nicolas, voilà. Superbe.
Les goélands.
Les goélands.
Les jeunes goélands, c'est un banc de jeunes. Hein.
Il y a des vieux devant et une bande de jeunes derrière là.
Oui, c'est ça. Bah oui, vous la reconnaissez d'ailleurs, effectivement, le plumage un peu roux,
voilà,
un peu beige.
Voilà, beaucoup plus beige. Ça, c'est des jeunes de l'année, ouais. Mais voraces quand même, hein. Ils viennent voir tout ce qui traîne dans le port. Hein.
Et puis alors, on a quand même la mer, parce que là où nous sommes, Isabelle, montée de l'eau quand même, mais alors là, on se dit quand même, cet océan qui se dilate, c'est pas de la blague, quoi.
Bah, c'est-à-dire que là, on le vit tous les jours, quoi. Hein. Ouais. Vous voyez, là, Denis, on est presque à pleine mer, mais c'est pas une très très grande marée aujourd'hui.
Ouais.
Bah, on a quoi ? On a à peu près 50-60 cm maximum de quai.
C'est ça.
Moi, je suis passée la semaine dernière, il y avait un assez gros coefficient. L'eau, on aurait eu les pieds dans l'eau exactement là où on est, là, sur cette espèce de quai un tout petit peu décaissé, là, ouais, sur lequel on peut normalement circuler à pied ou en vélo. Ben, on aurait eu les pieds dans l'eau et ça m'a frappé parce que je me suis dit, moi ça, je suis une vieille Rochelaise, hein.
Oui.
Et ben quand je suis arrivée à La Rochelle, ça c'était pas possible, ça existait pas, quoi. Donc,
ouais.
Donc on voit les petites choses qui changent, ouais, quand même. Et je sais que ben, la municipalité par exemple, elle réfléchit à ça, elle se pose quand même quelques questions parce que le vieux port là qui est tout autour de nous, toutes les jolies maisons anciennes et tout, ben,
oui,
on va pas les déménager celles-là,
non,
hein. On va essayer
non.
de les garder là.
On sensibilise aussi la population et puis les jeunes, ça a très bien marché. Là on voit des arbres. Et puis, il y a un rond à peu près à 1 mètre, 1,50 m pour matérialiser la montée des eaux.
Voilà, alors ça, c'est une opération qui a été faite il y a 2 ans, mais c'est bien parce que ça continue, ça tient.
Ouais.
Avec les enfants d'un certain nombre d'écoles de La Rochelle, on les a emmenés avec des pots de peinture et puis on a mesuré. Et puis on a dit, alors il y avait deux choses. Il y avait la plus grande crue qui est déjà advenue. Et puis, la plus grande crue, plus en 2100, la montée du niveau de la mer. Et donc, tout d'un coup, les gens, quand ils se promènent, ils voient les marques sur les arbres et ils se disent « Waouh, c'est pas possible !» Bah, si, c'est possible.
Alors Isabelle, je me tourne vers l'amoureuse de la nature, la présidente du WWF. Ce rapport entre l'homme et la nature, pour beaucoup de gens, la mer, la plage, c'est le décor de leurs loisirs, donc ça c'est très bien, mais ça peut être valable pour d'autres lieux que la mer. Quand même, comment ça se concrétise cette affaire ?
Alors, moi je trouve que ça commence à bouger un peu, soyons optimistes,
ouais,
Denis,
ouais,
un
ouais.
peu. Ça commence à bouger parce que, et c'est très important, on essaye de ramener un peu de nature en ville et on essaye de reconnecter les gens, tout simplement avec les plantes et les animaux, des fois de manière très simple. Il y a un peu plus loin, là, dans une rue qui donne sur le port d'ailleurs, les gens, ils ont commencé à planter des fleurs, vous savez, dans les petits carrés autour des arbres.
Ouais.
Hein. Et bien, spontanément, il y a des gens qui sont jardinés leur petit coin de plate-bande autour des arbres, des arbres de la rue, quoi. C'est tout bête, mais ça se voit quand on passe. Et alors, du coup, de proche en proche, le voisin, il a voulu faire plus joli, et le voisin encore. Et c'est des
ça, c'est le bon mimétisme, vous voyez,
voilà.
La bonne contagion.
Et puis peut-être qu'il y aura un peu des abeilles sur les petites fleurs que les gens ont plantées. Enfin voilà. Et à un moment donné, c'est pas. Et ça, je crois que c'est très important parce que on va tous de plus en plus vivre en ville. Hein. C'est la vie, c'est comme ça. Mais c'est que finalement, il n'y ait pas de coupure. Il n'y ait pas le moment où effectivement, on va en bateau sur la mer ou on va dans le parc naturel. Et là, on se prend ces petites 3 heures de nature. Et puis après, on revient dans un endroit qui pue, qui est moche et où il n'y a pas la moindre bestiole. Quoi. Donc je crois que il y a beaucoup de municipalités qui commencent à réfléchir là-dessus, à travailler là-dessus. Bon, il y a eu l'histoire de la trame verte et bleue qui est bien. Et puis, c'est quand même sympa d'entendre les oiseaux.
Évidemment.
Quoi, hein. Et toutes ces petites choses, et c'est très... moi, je crois beaucoup au fait qu'il y a une mobilisation des citoyens autour de toutes ces histoires-là. Quoi.
Isabelle, pendant que nous avons un bateau qui entre ici dans le port...
Ben oui, c'est là. Attends, c'est la vedette intéril quand même, c'est important. Il y a des îles ici à La Rochelle.
Il paraît, c'est ce que j'ai compris. Bon, puis il y a un truc d'avenir, on le sait, c'est le vélo. Hein, d'ailleurs, le vôtre n'est pas loin.
Oui, parce qu'ici, on est des feignants à La Rochelle parce qu'on fait du vélo parce que c'est tout plat,
c'est plat
hein, Denis.
Oui.
Hein,
oui,
à part le pont du chemin de fer,
ça
monte pas beaucoup.
Ça manque un peu de colle pour moi.
Enfin, voilà. Bon, c'est pas grave. Oui, on n'est pas aussi courageux. Mais en plus, il fait plutôt pas trop mauvais, donc
ouais,
ça aussi,
bien.
Ça simplifie un peu les choses. Et puis, de toute façon, la vieille ville, c'est une ville du Moyen-Âge. Une fois que vous avez mis 3 voitures, c'est fini, c'est plein.
Ouais.
On peut plus circuler. Moi, je vais 10 fois plus vite en vélo. Hein. Et puis, c'est pas super sympa. Moi, j'adore quand je déboule là, par la rue qui est derrière et que j'arrive sur le port tranquillement avec mon vélo. Quoi. Donc, je suis beaucoup plus... je suis plus attentive à ce qu'il y a autour de moi. Je suis plus attentive à ce paysage. je le savoure un peu plus, parce que c'est une chance d'être là.
Et cette ville a été pionnière, hein, on va le rappeler quand même. Avec...
Oui, la fameuse histoire des petits vélos. Oui. Bon, alors ça, ça n'avait pas duré très très longtemps, ça s'était arrêté, mais c'est resté une image. Et c'est vrai qu'il y a quand même, pour le coup, à La Rochelle, il y a quand même effectivement beaucoup de gens en vélo, quoi.
Bon, Isabelle, moi je retourne à la coursive hein, avec nos amis.
Bah voilà. Oui, voilà, vous les saluez de ma part.
Hein. Ah bah, je veux. Tiens, c'est quoi celui-là?
Ah, ça, je sais pas, mais il est beau, ce petit piaf là, avec son ventre blanc et son petit dos brun moucheté là. Il a un autre collègue,
bon,
ils sont deux, on n'est pas bon du tout. Non, on va aller voir la LPO, ils habitent pas loin, ils sont à Rochefort.
Ils sont à Rochefort, ben, on va faire ça. Allez, on va les prendre en photo. Merci Isabelle.
Salut Denis.
Voilà, merci à vous, donc, chère Isabelle Autissier. On est revenu à la coursive. Ben oui. Avec vous, et on va se trouver une petite maison sur le port. Je ne vous dis que ça, et juste après, eh bien, on parlera avec Écomer, la Fondation Léa Nature et l'association Respire.
Il y avait des chansons, les hommes venaient y boire et rêver. Dans la maison sur le port, où les filles riaient fort, où le vent faisait chanter, chanter, chanter. Les pêcheurs vous le diront, ils y venaient sans façon avant de partir tirer leur filet. Ils venaient se réchauffer près de nous. Dans la maison sur le port, les volets se sont rouverts et depuis, les rires des filles se sont envolés. Sous un tube de néon, un fonctionnaire à lorgnon est perdu dans ses papiers, vieux papiers. Où sont les rideaux à fleurs et les lampes de couleur, les cheveux de Maria, ses bras nus. On dirait que tout est mort et bien mort dans la maison sur le port. Je suis revenu une nuit, j'avais cru qu'on y chantait comme avant. Mais les couples qui dansaient n'étaient plus rien à présent que les ombres du passé, du passé. Vainement je recherchais cette fille que j'étais, qui savait aussi chanter et aimer. J'ai bien vu que tout est mort et bien mort dans la maison sur le port. Pas sur mes 20 ans que je pleure, bien souvent avec les filles j'ai pleuré. Mais on aurait pu laisser nos chansons dormir en paix, nos chansons et nos amours, nos amours. Je l'ai dit à Maria et aux filles de là-bas, allons voir pour oublier, oublier. Puisque notre cœur est mort et bien mort dans la maison sur le port. Puisque notre cœur est mort et bien mort. Sur le
La maison sur le port, eh bien oui, nous on y est avec donc le vieux port qui n'est pas loin. Bon, c'était pas une maison évidemment très très portugaise, enfin celle de San Severino en tout cas l'était. Et alors on poursuit donc évidemment sur l'aspect écologique de cette ville, de cette région, avec David Beaulieu qui est le fondateur de l'association Écomer. Alors, cher David Beaulieu, Écomer, d'où vient cet écho?
De la mer, tout simplement. En fait... lors d'une traversée de l'Atlantique, on était quatre à bord d'un bateau et la mer, en fait, m'a parlé, tout simplement. Et cette résonance s'est traduite par un engagement pour essayer de la sauvegarder, la protéger avec d'autres, bien sûr. Mais voilà.
Alors après, vous êtes quand même lancé véritablement dans l'éducation. Ça, évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et la valorisation des déchets. Alors, comment vous faites tout ça?
En fait, par exemple, l'activité de l'association tourne autour de la pédagogie. Donc, c'est vrai que l'objectif étant de toucher le plus grand nombre d'enfants, Donc cette première activité pédagogique se traduit par exemple par tous les mercredis. En ce moment, on va voir des classes de mer de CM1. Ce sont des enfants qui apprennent à naviguer ou en tout cas qui découvrent la voile à La Rochelle. La ville de La Rochelle propose ça aux enfants. Et nous, on intervient tous les mercredis pendant une heure et demie. On va leur faire un petit peu de l'éducation à l'environnement sur la protection des océans. Mmh. Donc pendant leur semaine de voile, ils peuvent aussi vérifier s'ils trouvent des déchets ou pas, s'ils en voient. C'est vrai que malheureusement, la pollution de la mer, elle est inhérente à l'activité humaine et malheureusement, on a beaucoup de macro-déchets, déchets visibles à l'œil nu. Alors ça, c'est une pollution qui est récurrente et dangereuse, mais la pollution la pire, finalement, c'est les micro-déchets, c'est invisible à l'œil nu. Et c'est aussi ça qu'il faut traduire aux enfants, même si c'est pas visible. Pour faire de la pédagogie avec quelque chose d'invisible, c'est un peu dur.
Alors sur les gros déchets, qu'est-ce que l'on fait ? Parce que vous avez un très joli slogan, c'est « Pour préserver les océans, écoute ta mère ». C'est pas mal.
Oui, pas « Écoute ton mère hein, », écoute ta mère. Hein.
Oui, c'est ça. Non, mais là, c'était « Écoute ta mère », donc c'était bien. Bon, et alors donc, lorsque je sais pas, vous ramassez des poches à huîtres, hein, c'est quand même la culture du coin, vous ramassez des bouts de voile, comment ça se passe ?
En fait, donc la pédagogie, elle se traduit donc avec les enfants par notre présence. On explique toutes les problématiques que peuvent recevoir les océans par nos actes. Et ensuite, on leur démontre que les choses sont possibles. Surtout, par exemple, on prend des poches à huîtres et on dit, voilà, ça c'est un déchet. Et bien aujourd'hui, grâce à un ESAT, on le transforme, un ESAT qui est à Arvert, dans le sud du département, qui s'appelle Navicule Bleu, et on le transforme en matière valorisable. Ça devient une panière. Cette panière, on s'en est servi pour mettre en place un projet qui s'appelle « Ici, ça bouchonne ». C'est un peu le cas sur autour de La Rochelle. Oui. Et donc, on collecte les bouchons de liège. Alors, les bouchons de liège, c'est vrai que ça peut paraître epsilon, ça peut paraître tout petit comme action. Néanmoins,
c'est-à-dire que plus on picole et plus on fait du bien à la planète. Quoi.
Ah, voilà. Bio, hein.
Bien sûr, pas qu'à faire.
Oui. Sans pesticides. Néanmoins, toutes ces petites actions ont au moins la vertu de dire « Avant, on le faisait pas, maintenant, on le fait ». Et on agit en conséquence.
Qu'est-ce que vous en faites là ? Isolation ?
Donc les bouchons, en fait, on les collecte auprès des restaurateurs, mais aussi auprès des particuliers, oui. Et on les broie avec une entreprise qui, son premier métier, c'est le broyage des coquilles d'huîtres. Et ben là, on leur a demandé de broyer des bouchons, ils y arrivent. Et après, on isole des maisons qui sont en rénovation. Alors on a isolé 3 maisons déjà à La Rochelle grâce à la collecte de des bouchons de liège. Et après, on en fait de la garniture pour, on va dire, des poufs en voile ou des coussins de méditation ou autre. En fait, on essaye de trouver et de créer des filières de valorisation locale sur quelque chose qui n'existait pas du tout, comme la poche à huîtres usagée et le bouchon de liège. Et puis, dernièrement, on a décidé de travailler toujours dans un but pédagogique avec des enfants des écoles de voile sur la valorisation du néoprène. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place un label.
Label Belle.
Oui, Label Belle, c'est ça. Oui. Et donc, un label dans les écoles de voile pour justement permettre aux écoles de voile d'avoir de la pédagogie au sein de leurs écoles avec des éléments visibles par le public, par les stagiaires, et puis surtout aussi des actions concrètes qu'ils peuvent faire au sein de leur école de voile.
Alors, La Rochelle, ville quand même, écolo, oui, mais aussi ville Céveso. Voilà, et donc on va se tourner aussi vers l'Amicale des cuves de pétrole. Je ne sais peut-être pas ça le nom de l'association. Bonjour Anne Louigou.
Bonsoir.
Alors, vous êtes la coprésidente, vous, de l'association donc Respire. Vous êtes aussi libraire aux saisons par ailleurs. Mais alors, ça, c'est très intéressant parce que les gens ne le savent pas forcément, mais en mars 2009, donc, il y a eu une pollution atmosphérique par hydrocarbures. Et donc, l'association Respire s'est donc créé dans le quartier de la Palisse. Et en fait, c'était une initiative au départ menée par les jeunes mères de famille.
Oui, tout à fait. En fait, des mères de famille se sont inquiétées de sentir toujours les hydrocarbures, le pétrole. On avait l'impression qu'il y avait des navires qui étaient en train de dégazer juste sous nos fenêtres.
Dégazer, il n'y a rien à voir. Oui.
Voilà. Et donc, l'association a commencé à se créer. On s'est donc regroupé. Et puis, on a commencé à enquêter. Et là, on a découvert qu'un permis de construire pour 4 nouvelles cuves de stockage d'hydrocarbures avait été accordé par la mairie de façon tacite. Donc déjà, là, gros souci parce que...
Normalement, ça va relever de la préfecture, non ?
Déjà, voilà, seuil Céveso, c'est la préfecture qui doit donner son aval. Donc, ça nous a donné envie d'aller un petit peu plus loin. Alors, il faut que j'explique un petit peu la situation des quartiers nord-ouest de La Rochelle, parce que, bon, je suis désolée, mais je vais noircir la carte postale de de La Rochelle, parce que bon, le port piéton, c'est bien, les vélos jaunes, c'est super, mais on n'habite pas tous sur le port. Et là, ce qui se passe dans les quartiers de nord-ouest, c'est terrible. C'est terrible parce que, en fait, on est cerné par 5 entreprises, seuil Seveso haut, ce qui veut dire élevé.
Donc vous avez un industriel qui s'appelle Picotti. Donc, il faut dire que c'est une réserve extrêmement importante de pétrole pour tout le sud-ouest.
Voilà, on a 500 000 mètres cubes qui sont stockés, qui, alors pour certaines cuves, sont à moins de 20 mètres des maisons.
Oui.
Alors, ça, c'est un cas d'école quand même. C'est unique en France. On n'a jamais vu ça. Les experts se sont déplacés et vraiment à chaque fois ils restent ébahis parce qu'ils disent c'est pas possible quoi.
Oui.
Alors,
ils peuvent même pas faire le plein en plus, donc c'est pas.
Ouais. Sachant que bon, évidemment, les maisons existaient bien avant la construction des premières cuves qui sont sorties de terre en 74.
Alors dans ce genre de cas, on comprend parfaitement évidemment qu'entre les écoles d'un côté, les crèches, donc les habitations, on n'est pas du tout envie de ça. Qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui? Il y a des intérêts évidemment financiers qui sont énormes, on s'en doute bien. Donc comment une association comme la vôtre peut essayer de faire bouger un peu les choses? En tout cas, déjà de le faire savoir, c'est ce que nous faisons. Mais
déjà, oui. Alors, notre rôle, c'est un peu un rôle d'information de la population, de lanceur d'alerte. Ce qui se passe, c'est que, on se bat depuis 6 ans pour qu'il y ait une zone de tampon qui soit instaurée entre le site et le quartier.
Idéalement, ce serait quoi? Moi, je ne rends pas compte.
Alors,
100 mètres, 200 mètres, 300 mètres.
Ce serait au moins 200 mètres, ouais. Alors, ce qui est très difficile, si vous voulez, c'est qu'il y a une étude commandée par l'État, d'ailleurs, par un organisme qui s'appelle INERIS, qui a quand même fait des relevés et a dit, en effet, si on vidait cette cuve, les plus proches des habitations, on aurait une zone, une tampon de sécurité. Mais là, on arrive au point problématique, c'est-à-dire que pour l'État, pour la mairie et pour le grand port, on entend toujours l'économiquement acceptable.
Ouais,
mais le retournement de situation, c'est-à-dire que là, on a commencé à être convoqué à des réunions publiques organisées par la mairie ou la préfecture. Et là, transfert de responsabilité, c'est aux habitants maintenant d'avoir des mesures foncières, c'est-à-dire de faire des travaux.
C'est-à-dire que c'est pas l'industriel
qui
va être véritablement donc entre guillemets inquiété,
non.
Mais ça va être le particulier qui va devoir faire ces travaux.
Il y a des zones de prescription, donc prescription obligatoire, et des experts donc se déplacent et annoncent que pour certaines maisons, il y a 75 000, 100 000 euros.
Ouais.
En plus, on sait très bien que ces travaux sont inutiles. Parce
il y a un côté, Frédéric Dorion, un peu pollueur-payeur quand même dans cette affaire. Donc,
mais ça, c'est l'habitude. Le pollueur-payeur n'est jamais. Non, c'est pas ça, c'est pollueur-payeur.
Pollueur-payeur, c'est ça.
Voilà. Ouais. Même si c'est que la notion de préjudice écologique a été assise dans le Code civil grâce à la loi de reconquête de la biodiversité, on en sera sans doute au destructeur-payeur un jour. Mais on n'est pas encore là. Et il y a bien un océan qui nous sépare des États-Unis parce que là, ce principe est respecté, contrairement à ce qu'on pense, mais pas en France.
Non, pas en France.
Et vous le signalez bien.
Voilà.
J'avais envie de demander à Anne,
David Beaulieu.
Le coût de déplacement de ces cuves. En fait, c'est évalué? Il y a un coût estimé?
Alors, ça a été évalué, mais qui a évalué ce coût? C'est l'industriel lui-même. Donc voilà, on tourne en rond.
Bon.
En fait, il y a un vrai déni de démocratie.
C'est beau. Normal, c'est beau.
Voilà.
Je représente. Alors, et comment on pourrait faire une évaluation sans que ça soit fait par l'industriel?
Il faudrait trouver un expert indépendant. Il faudrait qu'on ait beaucoup de sous, mais vraiment beaucoup de sous, et qu'il prouve son indépendance. Et là, on tourne en rond parce que nous, on ne trouve évidemment pas d'expert qui voudrait. Et puis même si ça doit coûter plus cher, est-ce que la vie humaine n'est pas plus importante? Est-ce que le quartier? Parce qu'il faut bien se dire que. C'est pas seulement les quartiers nord-ouest qui seraient touchés. On a vu, là, il y a eu pas mal d'accidents. Il y en a encore eu un hier soir. Il faut voir que, à chaque fois, il y a des études. C'est des études qui se basent sur une probabilité d'un risque. Les experts disent, mais oui, ça restera in situ. Sauf que ces débris de glace, juste après AZF, on a vu le nombre de victimes, Les projectiles sont envoyés à plus de 800 mètres.
Ça fait loin. Merci beaucoup, Anne Dwigou. On prendra la parole tout à l'heure. Ce que je vous propose, merci, là aussi, c'est de partir dans une île que vous connaissez quand même très bien, qui est l'île de Léron. On va aller sur l'Estran. On va aller sur l'Estran, sur ce lieu, parce que vous avez là-bas 50 nuances de gris, de bleu, de blanc, de vert par jour. Et puis, vous avez donc cet Estran qui est la zone de balancement des marées que vous connaissez les uns les autres. On va rejoindre Jean-Baptiste Bonin, qui est le coordinateur des centres permanents d'initiation à l'environnement de Marennes-Oléron, ainsi que Jacques Pigeot, qui est biologiste marin, donc chercheur à l'université de La Rochelle. On va se faire une petite balade de quelques minutes avec eux. Ça va nous faire le plus grand bien, respirer. Il y a des embruns partout.
Ah, oh bah oui,
ça, c'est une espèce bête, parmi les plus communes. Le crabe vert, enfin son vrai nom c'est le crabe enragé, ce qui peut être aussi rouge, oui. Bon, qui est très commun et qui est sur différents types d'estrans.
Il est trop petit là pour le manger quand
il
même.
Il est trop petit pour le manger, oui, de toute façon c'est pas le meilleur goût des crabes, donc ceux-là on les laisse, on les observe mais on les laisse.
Jean-Baptiste, son couteau.
Quand c'est comme ça c'est encore facile, un oursin qui était bien en évidence, lui encore avec sa petite guirlande. Impeccable pour ça. Les meilleurs oursins, c'est ceux qu'on mange là directement sur les strands comme ça, avec l'air de la mer dans les naseaux. Voilà, ça c'est vraiment l'iode, c'est vraiment le bon produit. Voilà.
On a l'impression, Jacques, qu'il y a des artistes qui sont passés sur le sable.
Ah, c'est absolument superbe. Là, on est au niveau de la limite avec l'évacuation des eaux, là, au niveau de la plage, qu'elle a pris au moment des hautes mers. Ouais. Et on a des figures d'érosion magnifiques.
Alors Jean-Baptiste, cet estran, bah évidemment, vous les connaissez par cœur. On a le phare de Chassiron, là, qui n'est pas loin. Et vous appartenez à cette association donc, qui s'appelle IOD. En fait, la pêche à pied, c'est une très bonne chose. Simplement, il faut qu'il y ait un petit peu des limites. Racontez-nous.
Il y a un exemple qui est tout à fait, je pense, édifiant pour nous. C'est le problème des renversements des rochers. Oui. Ici, sur l'estran rocheux, des crabes se logent très souvent sous des cailloux. Et le pêcheur, on va dire lambda, avait tendance, il y a quelques temps, à mettre les rochers à l'envers.
D'accord.
Si vous voulez, très simplement, sur le dessus de la pierre, vous avez alors des algues, des brouteurs, des coquillages brouteurs, qui vont avoir besoin de soleil. Mais en dessous, vous allez avoir des animaux qui ont, eux, plutôt besoin d'être abrités des prédateurs, qui ont besoin d'humidité, qui ont besoin d'être à l'abri des ultraviolets. Et si vous mettez tout ça à l'envers, évidemment, vous allez perdre à peu près entre la moitié et les trois quarts des espèces, quand même, un seul geste, en une seconde. Et ça multiplié par 400 ou 500 à chaque marée, à chaque pêcheur. Et nous, on arrivait à un constat d'à peu près 4 millions de pierres retournées par an par les pêcheurs de crabes. Donc on a fait tout un travail de pédagogie. Aujourd'hui, on peut estimer que ce comportement a pratiquement disparu de l'île de Léron. Ça permet aux pêcheurs de continuer à bénéficier de l'estran sans le dégrader. C'est un exemple. C'est là-dessus que les gens doivent faire aussi maintenant attention, de bien se limiter à des tailles quand même correctes pour que le gisement arrive à se renouveler. Si chacun prend un kilo et demi en moyenne, eh bien, vous voyez quand même le prélèvement que ça produit, quoi.
Alors, vous l'entendez sûrement un peu dans le micro. Là, on est quand même sous un vent assez sympathique, qui est assez connu. Ici, c'est lequel ?
C'est le vent de Suroît. Ouais. Un vent qui vient du sud-ouest et qui nous amène actuellement de l'eau. On est dans un temps de giboulée, là, comme si on était en mars.
Ouais, c'est ça.
Il y a du beau temps, il y a de la flotte, enfin bon, faut faire avec. Comme dans tout écosystème, il faut au départ des producteurs. Et les producteurs en milieu marin sont de deux types. Il s'agit à la fois des macroalgues, c'est-à-dire des végétaux visibles à l'œil nu, qui sont constitués de trois grands groupes, en gros, les algues vertes, les algues rouges et les algues brunes. Et ensuite, dans la colonne d'eau, et même parfois sur le sol, pour les estrans, par exemple, vaseux, on a effectivement de toutes petites algues microscopiques qui font entre 10 et 100 micromètres, qu'on appelle le phytoplancton.
Donc ça, c'est la base. Voilà.
Ça, c'est la base. Avec ça, avec du soleil, de la chlorophylle et du gaz carbonique, pour le coup,
oui,
eh bien, ces espèces sont capables de fabriquer leur matière organique.
Et
ça va servir de base à ceux qui vont les consommer, c'est-à-dire aux brouteurs, aux herbivores, que sont les bigorneaux, que sont certains oursins, que sont certains poissons, etc. Et ces organismes-là, les brouteurs, le premier niveau animal, va être mangé par des prédateurs.
Musique. petite promenade donc sur l'Estran, donc nous étions à l'île de Léron avec Jacques Pigeot et donc Jean-Jacques Bonin, Jean-Baptiste Bonin du CPIE de Marraine-Oléron et de l'association Yod. Alors petite réaction, c'est vrai que la pêche à pied, tout le monde a envie de ramasser, tout le monde a envie d'être cueilleur en quelque sorte, Frédéric Danvé, mais ça pose aussi quand même des problèmes.
Ben, tout le monde le fait, mais tout le monde le fait un peu trop, et pas évidemment nos amis Rochelais qui pêchent très bien, respectent les tailles, les saisons, et surtout remettent les pierres qu'ils ont retournées. C'est vachement important parce qu'une pierre que l'on retourne, il y a une face qui est sous la pierre avec une faune fixée qui ne supporte pas le soleil, qui ne supporte pas l'assèchement. Donc si on ne la remet pas, on flingue littéralement une petite niche écologique. Mais blague dans le coin, c'est une concurrence énorme qu'on a du mal à chiffrer, qu'on commence à chiffrer. Alors si on sort de la pêche à pied, qu'on part sur la pêche à la plaisance, on considère que le bar en France, tel qu'il est pêché, 50% de la pêche, 50% de la pêche n'est pas déclaré, ce serait une pêche de plaisancier. C'est-à-dire que pour un bar qui est en rayon, il y a un bar de plus qui n'est pas déclaré.
Ah oui.
Et, oui. Et donc, il y est en discussion en France actuellement de faire voter un permis de pêche à pied, mesdames, messieurs.
Bon, voilà. Et en tout cas, le bar et les mollusques apprécient très très moyennement les sacs plastiques, les tortues non plus. C'est pour ça que je vais me tourner vers vous, Marina Poirou, parce que vous êtes la directrice de la fondation Léa Nature. Charles Kloboukoff est donc le président de tout cela. Alors Léa Nature, c'est 1000 salariés, leader en bio, cosmétiques, santé, alimentaire, produits maison. Ça fait partie aussi du club des 1%. Vous savez pas forcément ce que c'est, mais ça veut dire que en fait, 1% du chiffre d'affaires va à la protection de l'environnement. Il y a 1200 entreprises quand même dans le monde, donc c'est bien 1% du chiffre d'affaires et pas des bénéfices. Vous avez une centaine donc d'entreprises aujourd'hui en France. Et alors donc, bah, vous aussi, ici, les sacs plastiques, bah, ça y est, je veux dire, ça a été parti avec le Festival du Vent il y a une douzaine d'années. Mais maintenant, alors qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez initié, Marina Poirou?
Alors, on a la vocation de la Fondation, c'est de soutenir des causes d'intérêt général sur la protection de l'environnement. Et l'année dernière, on a fait venir Paul Watson, le très connu président de Sea Shepherd et fondateur. Et à cette occasion, en fait, Charles Kloboukoff a lancé une pétition pour que La Rochelle passe à 100% sac plastique.
Alors, comment on fait?
Donc, comment on fait? Ben, on a travaillé...
100% autre que sac plastique, vous voulez dire. Hein, c'est ça.
Autre sac plastique. Ouais. On a travaillé avec, en fait, suite à cet appel, il y a eu un contact avec la mairie de La Rochelle et on a travaillé avec le service Nature et Paysage pour pouvoir essayer de trouver des solutions et aller plus vite que la loi, parce que aujourd'hui la loi tarde vraiment à venir, et de travailler avec le service des marchés, avec les associations, avec aussi les citoyens, pour sensibiliser en fait les citoyens et accompagner cette démarche.
Et de faire bouger le règlement du marché, justement, intérieur.
Oui, le règlement intérieur, donc c'est ce qui a été fait. Et ça, c'était très important, en fait, de dans les parties prenantes, que toutes les personnes concernées qui sont en lien direct, en fait, avec les commerçants...
Pour qu'il y ait les achats après groupés, de ça quoi, en papier?
En papier, tout à fait. Oui. Et qu'il y ait une vraie sensibilisation aussi. Il y a un stand qui est sur les marchés de La Rochelle et les associations rochelaises viennent sensibiliser les citoyens.
Et puis sur un autre sujet aussi, là, vous rejoignez nos amis des commères avec David Beaulieu, c'est un appel à projet. Donc là, c'est vraiment un appel à limiter les déchets dans l'océan. Comment vous faites? Là, quelques exemples, s'il vous plaît.
Alors, l'appel à projet a été lancé en 2015 et il va jusqu'en 2017. Donc, on a lancé un appel à projet suite au constat, effectivement, que la mer était polluée. D'une part, sur les problématiques de la surpêche et d'autre part, surtout, sur les problématiques des déchets, des macro et des micro-déchets. Mmh. Donc, on a donc fait un appel à projet envers le milieu associatif. On a déjà soutenu à peu près 35 projets.
Alors nous, ce qu'il nous faut, c'est du concret. Là. Allons-y,
vous avez droit à trois, là, vite fait. Une association qui s'appelle l'association Hirondelle, qui est basée à Pornic. Et donc, Pornic est une ville de bord de mer, comme La Rochelle. Et l'été, en fait, il y a 45% des maisons qui sont des maisons secondaires et des villages autour de Pornic, où c'est pratiquement 75%. Et là, il y a une masse.
Mais ce sont des villes fantômes, quoi, sinon.
Il y a une masse d'activités autour des jardins et du jardinage pendant 6 mois de l'année avec des intrants chimiques, en fait, dans les jardins qui vont directement à la mer. Donc, cette association a initié, en fait, la mise en place d'un jardin dans le centre de Pornic et a créé des ateliers, en fait, pour les propriétaires des maisons secondaires pour la bonne gestion de l'eau qui va directement à la mer.
Donc, jardiner sans pesticides, on va faire simple. Donc, c'est à peu près ça.
Pour que ça n'aille pas.
Ouais. Deuxième exemple, s'il vous plaît.
Deuxième exemple, une association qui s'appelle OZE, qui travaille en Île-de-France, qui fait des opérations de nettoyage de berges le long de la Seine.
Oh, très propre, la Seine est très très propre.
Donc c'est une association qui n'y a que des bénévoles et qui fait un travail formidable de sensibilisation des enfants, des écoles, des adultes et des riverains. Pareil pour anticiper en amont les plages.
Troisième exemple.
La mer. Troisième exemple, une association nationale européenne qui s'appelle la Surf Rider, qui fait beaucoup de plaidoyer et de lobbying sur la problématique des déchets. Et notamment, on les soutient particulièrement cette année sur une opération de sensibilisation et des citoyens et des fabricants de produits cosmétiques, puisque dans une grosse majorité des produits cosmétiques, il y a des microbilles. Et ça, on le sépare, des produits cosmétiques et des dentifrices, par exemple. Et ces microbilles vont directement à la mer. Elles ne sont pas du tout filtrées.
Bien, voilà. Écoutez, avec tout ça, on essaye d'agrémenter donc notre quotidien. Et ça va nous offrir donc une belle journée, signé William Scheller, et bien sûr.
Rester la nuit pour observer les étoiles, couché sur le dos dans le frais du gazon, ça suffirait parfois pour qu'au-delà des illusions, on puisse se dire y a de bons moments quand même. Se lever quand la brume étendra ses voiles, au jardin bleu dont on ne voit même plus le fond. Faire quelques pas et regarder jusqu'à l'horizon, où l'on sait qu'au-delà quelqu'un vous aime. Je le sens bien déjà, c'est une belle journée pour moi. Et toi, ça va, ça ne dure pas, c'est pas fait pour ça. C'est une belle journée pour moi. Ça n'est pas bon, c'est vrai, mais ça fait du bien. Ne pas avoir à être dispo pour 3 fois rien. Laisser couler les heures à la pendule. Au dernier feu tout au loin d'un ciel immense. Guetter le tout dernier rayon vert du soir. Et tout là-haut voir passer ton avion rouge et noir. Tu me reviens, je me dis que j'ai de la chance. Alors finira une bien belle journée pour toi et moi. Ça va, on aura, qui vivra verra, bien d'autres journées comme ça.
Plus une génération de diététiciens, de juges, d'écolos.
font chier cette génération.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Et toujours avec nos amis ici, donc à La Rochelle, donc à la Coursive. Oui, ils sont là. Avec une sensibilité, disons-le, assez affirmée sur ces sujets. Notre gros horloger pas loin, notre lanterne aussi, tout va bien. Le vieux port. Et puis, bah, évidemment que les ports, ils aiment pas David Beaulieu, donc, de l'association Écomer, ce qu'on appelle les eaux grises et les eaux noires pour être tout à fait pudiques. Autrement dit, ce sont nos besoins pour certains. Bon, il y a quand même une réglementation depuis 2008, hein. Ça, c'est intéressant.
Oui. Depuis 2008, on a, les constructeurs de bateaux ont obligation de mettre, d'installer à bord des tanks qui permettent de récolter ces eaux noires et ces eaux grises. Et ensuite, les ports, et notamment le port de La Rochelle et d'autres le font, c'est vrai que c'est plus facile quand c'est un port avec une grande structure, ils ont des bateaux-pompes qui permettent de pomper toutes ces cuves.
Et de pas faire comme un shaddock, c'est-à-dire de les remettre après ailleurs. Non,
voilà, pour les repomper après.
C'est ça.
Donc voilà, donc ça c'est une vraie avancée. Après sur le port, le boulot qu'on a pu mener aussi avec le port, qui a été de diminuer fortement la et de valoriser correctement en fait tous les déchets toxiques qui émanent de la plaisance, puisque chaque année tous les plaisanciers recarènent leur bateau. Et bien ça avant, ben il n'y avait rien sur le port, on mettait ça dans les déchets tout venant. Aujourd'hui ça coûte vraiment cher en plus au port, hein, de mettre ça en œuvre. Donc aujourd'hui, tous les déchets toxiques sont gérés de manière correcte. Donc c'est un plus pour l'incinérateur, c'est un plus pour les habitants, je pense aussi, qui se trouvent sous le vent de l'incinérateur.
Bien, je vois bon.
Je tenais juste à préciser deux choses, puisqu'on a écouté Yod. Yod a fait un travail formidable sur le repos écologique des espèces. C'est-à-dire qu'ils ont fait une expérimentation sur un périmètre défini, et ils ont foutu la paix aux espèces pendant un certain nombre de temps. Et sur les sacs plastiques, Écomer avait mené une opération en 2004 sur l'île de Ré, ça avait pas trop mal fonctionné. Voilà.
Merci beaucoup. Je me retourne vers vous, donc vers l'association donc Respire avec vous, Anne Dwigou. Alors en fait, vous ne vous parfumez pas simplement aux particules fines au diesel, mais aussi aux particules de céréales. Parce qu'on est quand même là sur un port extrêmement important, un port en eau profonde. Donc on est absolument sur une espèce de course au tonnage. Et vous avez donc de très nombreuses céréales. Enfin, le port donc représente les céréales, 48%, hein, il me semble.
Oui, c'est ça, 48%.
Du volume,
oui.
Donc c'est ça. Et donc vous avez des céréales qui sont arrosées de produits fongiques, pesticides, donc particules fines. Alors là, ça se répand merveilleusement un peu partout, dans le pertuis, dans les vases nourricières, dans les jardins, que sais-je, et puis évidemment dans les narines de tout le monde.
Et voilà. Donc on note une recrudescence d'asthme, d'allergie. Les pêcheurs nous ont contactés parce que HF2B, ils se prennent tout sous le vent. En fait, toutes les céréales produisent bien sûr donc des poussières qui contiennent donc plein de pesticides et produits fongiques. Ce qui fait que donc ils sont tout le temps pollués, obligés de nettoyer leur bateau. Donc on imagine aussi que le poisson qu'on espère trouver frais dans notre assiette a un petit goût de...
Bon, vous n'êtes pas nous plomber l'ambiance.
Un petit peu, là, je suis un peu... Mais c'est vrai que, bon, voilà, il faut regarder les choses en face.
Oui.
Tant que les camions transportant des poussières ne seront pas complètement bâchés, tant que les mesures de sécurité ne seront pas entièrement respectées, bon ben, il suffit de regarder. Atmo fait un travail intéressant.
Alors Atmo, c'est l'unité de mesure, c'est l'entité,
voilà,
qui s'occupe de la mesure,
voilà,
de la qualité de l'air,
voilà,
ici.
Et si on regarde, ben, on dépasse très souvent le seuil de tolérance.
D'accord, mais c'est comme à Paris, c'est bien.
Ouais.
Donc, en fait, des céréales à l'essence au petit déjeuner pour faire le plein d'énergie, vous n'en voulez pas, hein, c'est un peu ça. Donc
j'ai changé de régime.
Vous avez changé de régime, c'est très très bien. Alors, vous avez aussi une merveilleuse cimenterie, me semble-t-il, quand même,
ouais,
qui est derrière. Et alors là, Frédéric Noé, c'est tout à fait intéressant, parce qu'en fait, sur la région, bon, je sais que maintenant vous êtes relié à Aquitaine, Limousin, etc., mais en Poitou-Charentes, on a une des plus fortes demandes en béton de France.
Eh oui, alors qu'il y a de moins en moins de granulats, donc il y a toujours ces projets d'aller chercher du sable en mer pour remplacer les granulats. Mais alors cette cimenterie, c'est intéressant parce que c'est le reflet de ce qui se passe dans le monde. Alors, il faut savoir que les cimenteries, la fabrication du ciment et du béton, c'est 6% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, c'est 10% pour ce qui concerne la France. Donc c'est énorme. Pourquoi ? Parce que la matière première, il faut la brûler à 1450 degrés et cela consomme beaucoup, beaucoup d'énergie et entraîne beaucoup, beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, peut-on se dire, séparons les activités de brûlage des activités de broyage. Et c'est ce qu'on fait à La Rochelle, c'est un broyage.
Alors, c'est-à-dire qu'actuellement, la politique des cimenteries, on va dire dans le monde, en tout cas au moins en France ou en Europe, c'est donc bien de séparer
d'un côté donc ce que vous appelez le broyage avec le brûlage qui a lieu avant.
Autrement dit, on délègue, on délocalise chez les pauvres l'activité la plus énergivore. Donc c'est tout bénéfice pour les cimenteries pour deux raisons. La première, c'est que les pays dans lesquels on brûle la matière qui est ensuite concassée ici, ce sont des pays qui ne sont pas assujettis au marché du carbone. Donc bah ça coûte rien. Et en plus, comme cette séparation entre les activités s'est faite après que les cimentiers se soient vus allouer des quotas de carbone liés justement au brûlage de cette énergie.
À une époque où ça coûtait pas cher.
À l'époque où ça coûtait pas cher.
C'est pas que ça
du fait aujourd'hui. Que les activités sont séparées, les cimentiers se retrouvent avec plein de quotas carbone dont ils ne savent que faire. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, mon cher Denis? Ils les vendent, c'est tout bénéfice. Et qui, mon cher Denis, bénéficie le plus du marché carbone aujourd'hui? Ce sont les cimentiers.
D'accord. Ça veut dire que ce sont les financiers à la tête donc, de cimenterie qui ont pris le pouvoir par rapport aux ingénieurs ou industriels.
Ce sont des financiers. Et il y a un aspect, on rejoint les aspects pollution, c'est que dans les cimenteries, vous savez, donc ce brûlage pour alimenter ces fours à 1450 degrés, il faut savoir qu'il faut une flamme à 2000 degrés. Et bien jusqu'à présent, on fourguait plein de déchets dangereux, de déchets toxiques, des pneus notamment, des huiles usagées. Qu'est-ce qu'on va en faire dès lors qu'on ne brûlera plus ces déchets?
On va les manger.
On va les enfouir et ensuite on s'apercevra que ça pollue encore plus. Donc sachez bien que voilà, ce qui se passe là, c'est aussi la conséquence d'un marché du carbone mal contrôlé.
Juste en une petite phrase aussi, on sait très bien que les sédiments, les roches sédimentaires sont les plus importantes, on va dire, sur le globe, à peu près donc 70%. Et on a trouvé des roches qui deviennent plastino-glomérates.
Pas plastiglomérate, mon cher Denis. Alors vous prenez du sédiment, par exemple du sable, vous mélangez avec des microparticules de plastique. Vous appuyez un bon coup, vous chassez la flotte et vous avez une nouvelle roche, mesdames, messieurs, que connaissent les géologues, qui s'appelle le plastiglomérate. Ce qui fait dire aux géologues que nous ne sommes pas dans l'anthropocène, mais dans l'ère poubellienne.
Très bien pour l'ère poubellienne. Merci beaucoup, cher Frédéric Danhé. Un petit mot, David Beaulieu, s'il vous plaît. Un petit mot. Allez, on quitte de manière positive, on va dire La Rochelle, avec quelque chose, une belle image qui vous plaît, vous ici, de cette région ou de cette ville.
Déjà, d'écouter la mer. Moi, je pense que on ne le fait pas assez souvent. On ne va pas trop assez souvent au bord de la mer. Écouter la mer, prendre 5 minutes, méditer simplement, être relié, puis voilà.
Bon, écoutez, c'est pas mal. Un grand merci donc à vous toutes et à vous tous de nous avoir présenté tout ceci. Merci à vous, donc, cher public. Un grand merci à Xavier Pestudia, donc qui a réalisé cette émission, à Claire Destacant, notre assistante, Hervé Dubreuil, Andreas Jaffré, Pascal Bresse, Nicolas Boucard, Gilles Manet, Julien Bourdeau. Je cite tous parce que c'est vrai qu'ils se sont déplacés puis qu'ils aiment bien aussi donc venir. On s'appelle France Inter, donc ça veut dire qu'on vient dans toute la France et ça on aime beaucoup. Demain ce sera l'atelier du Mont Petit Loup à 19h54 après les petits bateaux et puis la semaine prochaine eh bien on va s'offrir une belle fête de la nature que vous allez vous aussi fêter donc à La Rochelle. On vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Et puis dans quelques instants, ce sera la librairie francophone d'Emmanuel Kérad. Salut à tous, merci encore La Rochelle. Et dimanche, eh bien vous aurez François-Régis Gaudry avec On va déguster. Vous l'écouterez donc à 11h avec les produits que vous connaissez donc ici.